Bonjour. Donc on est ici pour la table ronde sur nouveaux matériaux et science-fiction. Alors de quoi il va être question ? Eh bien, il va être question de pas mal de choses, parce que quand on raconte des histoires extraordinaires, on a des choses extraordinaires à mettre en scène. Et pour mettre ça en scène, il y a besoin de certains accessoires théâtraux. Il y a besoin de certaines choses presque magiques. Quand H.G. Wells voulait nous expliquer qu'on avait de l'antigravité, eh bien, il inventait la cavorite qui, magiquement, on peut le dire, coupait l'influence de la gravitation et hop, on s'envolait vers la Lune. On a un manteau fait d'une matière, alors c'est pas Wells, ça c'était plus primitif, on a un manteau fait d'un tissu suffisamment bien coupé pour qu'on soit invisible. Bon. C'est devenu un peu plus subtil quand même, et dans la SF plus récente, on voit des inventions, je ne sais pas, vers 1970-80, comme l'ascenseur spatial, un fil qui permet d'aller jusqu'à l'orbite géostationnaire, et bien sûr ce fil, même s'il fait 200 mètres d'épaisseur, reste beaucoup trop fin pour être construit avec les matériaux qu'on connaît et résister aux forces qui sont mises en jeu vu sa longueur incroyable. Donc on est obligé de supposer, d'axiomatiser une matière qui n'existe pas à l'heure actuelle, et encore plus si on veut construire un nanomonde comme la Rhynhaven ou une sphère de Dyson qui va entourer entièrement une étoile pour capturer toute son énergie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée qu'on va améliorer le corps humain. Et améliorer le corps humain, ça signifie... à l'heure actuelle, mettre des bouts de métal et de plastique dans nos os, mais plus tard, mettre des choses beaucoup plus compliquées, hein, des choses éventuellement vivantes mais fabriquées, pour avoir des cyborgs qui soient bien faits. Et là, on glisse vers des thèmes de la singularité ou des choses comme ça, ou du post-humanisme, comme on dit maintenant, avoir de la matière qui soit intelligente. C'est-à-dire, chaque petit bout de matière, c'est pas une bête molécule qui est juste liée chimiquement à ses voisins, mais c'est une nanomachine qui va faire des choses magnifiques, ou peut-être, plus modestement, un nano-objet qui est usiné, mais à des échelles absolument invisibles pour nous, pour faire des trucs compliqués. Et ça, ça existe déjà. Alors, ça, c'était le thème. Mais vous vouliez savoir qui sont les gens qui vont vous parler. De droite à gauche pour vous et de gauche à droite pour moi. Au bout ici, Raphaël Granier de Cassagnac, qui de son métier est physicien des particules et que nous connaissons comme romancier, hein, qui a publié 2 livres, Thinking Eternity et Eternity Incorporated, c'est ça, donc en français un texte. Ils sont en français, je vous rassure, mais les titres sont anglais, et de toute façon, on pourrait lui en parler plus parce qu'il va signer juste après, c'est ça, hein, des dédicaces. Voilà. Roland Lehoucq, qui je suis un peu gêné de présenter, c'est quand même le président du festival, donc vous ne voyez que lui, et vous ne voyez que ses œuvres, qui est de son métier physicien aussi, mais plutôt astrophysicien, qui est aussi un vulgarisateur scientifique de première bourre, on peut dire, présent un peu partout dans Bifrost, dans Le Monde, qui a écrit des ouvrages, qui a même co-écrit au moins un roman avec Claude Ekenn, que je vous recommande. Et Fabien Guillemot, qui n'est pas un écrivain, mais qui est un chercheur en sciences des matériaux et biologie, et aussi le fondateur d'une... start-up, on peut dire, d'une jeune pousse, hein, ça fera plus biologique, qui est spécialisé dans la bio-impression, une chose que je ne connaissais pas jusqu'à hier et qui va sûrement nous expliquer. Mais peut-être qu'on va commencer par ça, parce que la bio-impression, c'est vraiment l'objet de beaucoup de curiosité. Et quand je parlais de cyborg, on se dit qu'on est en train de s'y diriger. Alors...
Oui, effectivement. Alors la bio-impression, je ne sais pas si vous êtes peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, il s'agit de l'utilisation des principes d'impression 3D pour fabriquer des tissus biologiques. Donc, on applique les principes d'impression 3D qui sont de faire de la conception numérique et après de la fabrication couche par couche, additive de matière. Et c'est vrai que notre matière, parce que je crois que c'est un peu le thème de la table ronde, est un peu spécifique parce qu'on travaille avec de la matière vivante et notamment des cellules souches. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt à la base un spécialiste des matériaux avec toujours, on a toujours le souci, en fait, dans sciences des matériaux de développer des matériaux qui ont des fonctions spécifiques pour répondre donc à des applications particulières et qui ont des formes particulières. Et c'est vrai que pour ça, dans cette perspective-là, l'impression 3D ouvre une somme de possibilités extrêmement importantes. Hein. On parle d'impression de pizza, d'impression de... des imprimantes on anticipe l'utilisation des imprimantes pour dans les stations spatiales ou même pour fabriquer des objets dans des endroits extrêmement exotiques, mais c'est aujourd'hui aussi utilisé pour fabriquer des tissus. Donc on est un certain nombre de chercheurs à l'INSERM et au niveau international maintenant à s'intéresser à cette technologie, et on en parlait tout à l'heure, en aparté. C'est vrai que les choses vont déjà assez vite parce qu'on se dit, bon, on est capable de fabriquer un bout de peau qui va servir aujourd'hui, par exemple, à l'industrie cosmétique. Machin, voilà. Mais en fait, on a déjà réalisé des expériences assez intéressantes. Même à la base, c'était plutôt un challenge qu'on s'était donné, c'était de réaliser ces impressions directement sur un animal. C'est-à-dire dans une perspective un peu de s'imprimer directement un bout de peau qu'on pourrait faire dans le cadre d'un traitement d'une brûlure. Par exemple, on a eu l'occasion de réaliser ça directement sur des souris pour favoriser la cicatrisation du tissu osseux. Donc c'est vrai que j'imagine que pour des amateurs de science-fiction, ça peut laisser de la place à pas mal d'imagination.
Oui, mais ça rappelle, je sais pas, moi ça m'évoque tout de suite dans le cinquième élément, quand on voit à partir d'un bout d'os qu'on récupère d'un personnage qui a disparu, on met le bout d'os dans la machine, il y a une analyse qui se fait, ADN, et puis ça réimprime littéralement le personnage qu'on voit après, c'est la belle nana qui se balade dans tout le film ensuite. Et là, c'est
pour l'instant, elle est un peu poilue, la nana. Mais
pour l'instant, c'est une petite nana à souris. C'est ça. Et c'est assez fascinant d'imaginer qu'on puisse effectivement imprimer du vivant. Enfin, si on fait un raccourci peut-être un peu rapide, c'est ça, si on imprime du vivant.
C'est même la définition qu'a donnée l'Académie britannique en fait, de la bio-impression. La bio-impression est vraiment réservée à l'impression de matière vivante, donc des cellules. Ce n'est pas l'impression de matériaux pour un usage médical, c'est l'impression de matière vivante.
C'est pas une sorte de polymère qu'on met à la place qui va être la prothèse. C'est pas comme si on imprimait la prothèse au lieu de par une opération chirurgicale de l'insérer dans le corps. C'est vraiment on imprime. Et on met son bras sous le truc en gros, puis boum, c'est reparti quoi.
C'est vraiment l'idée. On a un gros projet d'ailleurs dans les tuyaux avec l'unité INSERM à Bordeaux pour faire ça. On a pu faire la démonstration sur des petits animaux, des souris de faire ça sur des animaux un peu plus gros pas encore nous, mais l'idée est effectivement d'aller progressivement vers la clinique, et c'est vrai que pour nous c'est notre quotidien, c'est de prendre un bout de Lilou, c'était le nom de donc des cellules qu'on amplifie pour en avoir en nombre suffisant pour pouvoir faire une structure qui est de taille on va dire nécessaire à la réparation des tissus. Donc au final, c'est notre quotidien, c'est plus vraiment plus de la science-fiction.
Mais plus en détail, quand tu imprimes, quand la machine imprime, elle a des cellules qu'elle met en place. Ces cellules sont toutes les mêmes, c'est des cellules souches qui vont se différencier après, qui vont communiquer entre elles, qui vont former un tissu, comment ça se passe ?
En fait, on a des systèmes qui sont... On utilise beaucoup la terminologie de l'impression conventionnelle. Donc, on a des systèmes multicolores. Donc, on a différentes cartouches qui peuvent contenir différents types cellulaires. Et tout l'enjeu, en fait, de la bio-impression, c'est de reproduire des organisations, des cellules, desquelles vont émerger des fonctions particulières par des processus d'auto-organisation, qui sont c'est des approches conventionnelles des systèmes complexes, au final. Et donc, tout l'idée, c'est de créer des organisations. Quand on imprime, je crois que la définition d'ailleurs d'imprimer, c'est reproduire un motif. Donc quand on fait de la bio-impression, on reproduit des motifs biologiques, des motifs de cellules. Les cellules, une fois imprimées, vont interagir entre elles jusqu'à faire émerger, par exemple dans le cadre de la peau, un épiderme qui est la composante la plus externe de la peau, un derme, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Et c'est vraiment tout l'enjeu, c'est de déterminer cette relation entre la forme et la fonction, donc l'organisation des cellules et les fonctions biologiques qu'on recherche.
On trouve ça même en physique microscopique, enfin, en physique microscopique, il y a des, du coup en nanophysique même, dans les objets qu'on appelle nanomatériaux, il y a un rapport très étroit entre la forme et ce qu'elle produit. C'est-à-dire que les propriétés physiques, habituellement, si vous prenez un lingot d'or, par exemple, il va fondre à une certaine température, qui est la température de fusion de l'or. Mais si on prend un objet en or qui est plus petit qu'un lingot d'or, alors là, ça peut être une petite poussière d'or, éventuellement une toute petite particule d'or, enfin avec quelques millions d'atomes d'or, la température de fusion, donc la propriété physique, à quelle température ça fond, dépend de la taille de l'objet. Ça, c'est des rapports qui sont entre surface et volume, entre le fait que sur un tout petit objet, il y a beaucoup plus d'atomes finalement de surface que d'atomes dans le volume, ce qui n'est pas le cas dans un gros objet où la surface ne représente quasiment rien par rapport à l'ensemble du volume. Et du coup, il y a un rapprochement à faire entre le fait que les matériaux, les nanomatériaux physiques, donc inertes, ont des propriétés qui dépendent de leur forme, en particulier des propriétés, par exemple, de température de fusion, mais il peut y avoir des températures aussi, des propriétés de coloration, des propriétés physiques de magnétique. Un petit morceau de fer, il est forcément, c'est automatiquement un aimant s'il est assez petit, alors qu'un gros morceau de fer, c'est rien, c'est un gros morceau de fer. Il faut l'aimanter pour qu'il ait et qu'il la garde, cette aimantation. Donc là, il peut garder l'aimantation, mais il faut de l'extérieur lui imposer l'aimantation. Alors qu'un petit morceau de fer, il est automatiquement aimanté, c'est automatiquement un tout petit aimant, un tout petit aimant. Et donc là, je trouve ça, enfin, ce rapport-là entre finalement le matériau vivant dont la forme va fixer la fonction, va être liée à la fonction, on l'a aussi à toute petite échelle physique.
Il y a des exemples assez intéressants parce qu'on parle beaucoup de l'importance de la génétique et au final, un certain nombre d'études scientifiques ont pu montrer que la génétique était loin d'être le tout ou de tout faire. Par exemple, quand vous cultivez des cellules sur des petits îlots d'une protéine qu'on appelle la fibronectine, en fonction de la taille de la surface sur laquelle on imprime, en fait, on va soit favoriser la différenciation de ces cellules souches en cellules osseuses dans le même milieu, soit la différenciation de ces cellules en cellules du tissu adipeux. Simplement par un effet géométrique. Et donc, en fait, derrière la biologie, c'est toute la tendance aujourd'hui, c'est l'importance de l'environnement et qui va diriger ou, en fait, induire des fonctions particulières. Et derrière l'environnement, c'est ces notions d'organisation, de forme, en fait.
Dis-moi, Roland, si on passait du micro au macro avec les Big Dumb Objects. tu sais qu'il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction dans la veine space opera, comme Ian Banks, pour prendre le plus récent d'entre eux, qui nous ont fait rêver avec des objets en orbite autour d'étoiles, largement plus grands que des planètes et largement plus plats aussi, pour maximiser la surface sur laquelle pourraient vivre des êtres vivants. Alors, est-ce que tu peux nous donner une idée de ce qu'il faudrait faire pour arriver à des choses comme ça, qui sont bien sûr largement au-delà du domaine de la science des matériaux telle qu'on la connaît aujourd'hui?
Oui, c'est-à-dire que quand on voit, par exemple, Genfort avec Omal, il utilise le carb pour faire la structure d'Omal, qui est une espèce de sphère de Dyson, finalement, mais qui sert de zoo cosmique, puisqu'on est à l'intérieur, les êtres humains et puis d'autres sont sur la surface interne, qui est en rotation en plus pour qu'il y ait une gravité artificielle due à la force centrifuge de la rotation de la mégastructure, parce que c'est un objet qui a une taille qui est l'ordre du rayon de l'orbite terrestre. Ou alors il y a le Skriss aussi qu'est-ce qui fait ça? C'est la Riniven, c'est dans l'anneau monde. Donc ils invoquent des matériaux évidemment aux propriétés extraordinaires, parce que si maintenant on se dit, imaginons que cette structure soit là, essayons d'estimer les contraintes qu'elle va subir. D'abord les contraintes parce qu'elle a une masse si énorme qu'elle crée une gravitation qui n'est pas négligeable, qui va lui donner une forme, qui va imposer sa forme. En même temps, on ne veut pas que cette gravitation domine l'énergie de liaison qu'il y a entre les atomes du matériau. Sinon, l'objet s'effondre sous son propre poids et puis devient une espèce de sphère, enfin quelque chose qui est autre chose, qui n'est pas l'objet. Il n'aura pas sa forme propre. Si vous avez une forme propre, vous êtes avec deux bras, deux jambes, c'est parce que votre masse n'est pas suffisante pour que votre propre gravité vous impose sa loi. Si c'était le cas, vous seriez tous sphériques. Les objets de grande taille dont la gravité domine la structure, par exemple la Terre, ils sont sphériques. Et on regarde, vous pouvez regarder, faites cette statistique-là, vous regardez dans les objets du système solaire, tous les objets au-delà d'à peu près 5 à 600 km de diamètre ont une forme qui est grossièrement sphérique, puis franchement sphérique. Tous les objets qui sont plus petits que 5 à 600 km de taille, c'est des patates et n'importe quoi. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, ils ont des formes à la con, si j'ose dire, n'importe quoi. Donc, un objet qui devient une mégastructure, les Big Dumb Objects, les fameux Big Dumb Objects, ils commencent à avoir une taille suffisante pour que leur propre gravité commencent à vouloir leur imposer la forme. Donc il faut que l'objet en lui-même, il ait une résistance à la gravité, quelque chose qui empêche la gravité d'agir, ou qui contre la gravité, suffisante pour qu'il ne devienne pas une bête sphère. Et donc, quand on met, alors en plus, ces objets-là peuvent être en rotation. Par exemple, dans le cas d'Omal, de Genfort, cette grande sphère de Dyson, donc une énorme sphère qui entoure l'étoile centrale. Alors, ce qui n'est pas le Soleil dans le cas de, enfin, qui est un Soleil, mais qui n'est pas notre Soleil évidemment dans le cas de Genfort, et que cet objet-là, en plus, est en rotation sur lui-même pour que la force centrifuge plaque les habitants à la surface de l'objet, au moins dans la zone équatoriale. Dans la zone polaire, la force centrifuge sera nulle, strictement nulle au pôle, et puis pas très grande. Donc, au moins dans la zone équatoriale. Donc on peut se dire on peut chiffrer les contraintes que va subir le matériau, et donc du coup fixer le cahier des charges du matériau. C'est un peu que tu te parlais tout à l'heure de l'ascenseur spatial. On se dit, ben voilà, vous tendez l'ascenseur spatial, c'est l'idée que vous allez tendre un câble, encore une mégastructure, mais moins ambitieuse qu'une sphère de Dyson, enfin que Omal ou que l'anneau monde. Vous tendez un câble entre le sol, accroché au sol de la Terre, entre le sol et l'espace lointain, qui va être sujet d'une part à son poids, donc le fait qu'il est attiré par la Terre, et le fait que comme la Terre est en rotation et qu'il est accroché à la Terre, va subir une force centrifuge, vous devez choisir la longueur de sorte qu'il y ait un équilibre entre le poids et la force centrifuge. Et si vous faites ça, vous trouvez que l'objet doit faire à peu près 144 000 km de longueur. C'est déjà un objet assez grand, donc c'est un peu moins de la moitié de la distance Terre-Lune. Donc ça commence à être un gros objet. Et que cet objet, eh bien, il va subir des contraintes internes titanesques. Quel est le cahier des charges du matériau? Vous chiffrez les contraintes. Vous aimeriez aussi un matériau qui soit à la fois très résistant et pas trop lourd, parce que s'il est trop lourd, le poids va devenir vraiment énorme. Donc il va falloir avoir un diamètre énorme, ce qui va augmenter le poids. Mais en même temps, il va falloir encore... Bref, si vous voulez que ça tienne à peu près la route, il faut quand même un objet qui a des contraintes, un cahier des charges techniques. Et vous regardez ce que vous avez en magasin. Vous regardez dans la science des matériaux, ce qu'on a sous la main. Puis vous êtes un peu déçu parce que bon, ça n'existe pas, quoi. Donc vous êtes Arthur Clarke qui fait les fontaines du paradis en 73. Vous inventez le monofilament. Clarke est tout à fait conscient que le matériau n'existe pas, mais qui est capable d'estimer les contraintes qu'il va subir. Vous êtes Genfort, vous êtes Larry Niven. Vous dites, bon, on s'emmerde pas. On invente un matériau, on lui donne un nom, le carb. Alors ça évoque les fibres de carbone, enfin un matériau incroyable qui a déjà des propriétés mécaniques assez incroyables dans le matériau quotidien terrestre. Et puis le Scriss, dans le cas de Larry Niven, bon là vous emmerdez pas, c'est un matériau super dense, il compare ça au matériau des étoiles à neutrons, ce qui n'est pas une mauvaise idée, parce que c'est en gros typiquement ça les caractéristiques qu'on doit avoir, des matériaux avec des densités, des capacités de résistance incroyables, malheureusement qui n'existent que sous l'influence de la gravité énorme d'une étoile à neutrons. Dès qu'il n'y a pas la gravité de l'étoile à neutrons, la matière se déconfine, comme on dit techniquement, et vous avez de la matière ordinaire et plus de la matière avec des propriétés incroyables. Donc effectivement, la science-fiction ne s'embarrasse pas des détails. Elle essaie de mettre, comme d'habitude, une sorte de... On peut suspendre son incrédulité, on essaie de justifier un peu l'ambiance pour dire que voilà, c'est pas complètement idiot par le nom ou par le... C'est un certain nombre de propriétés qu'on invoque, mais en même temps, ça n'existe pas. Alors, dans le cas du monofilament qu'invoquait... Clarke pour l'ascenseur spatial, qui n'est pas une invention d'Arthur Clarke, hein, qui est une invention d'un ingénieur russe qui s'appelle Arthur Natov, qui a imaginé cette structure-là. Et puis on peut même la faire remonter historiquement à des choses plus anciennes, à une sorte de tour cosmique inventée ou imaginée par Tucholsky. Donc une sorte de tour Eiffel qui ferait, au lieu de faire 300 mètres, qui ferait 50 000 km ou 36 000 km d'altitude. 36 000 km, c'est bien parce que vous avez une tour Eiffel qui fait 36 000 km de haut, vous montez les marches. Bon, je caricature un peu, mais avec le satellite sous le bras, vous montez les marches, puis vous posez le satellite en orbite géostationnaire. Vous le poussez un peu, puis voilà, il est en orbite géostationnaire. Donc c'est assez tranquille du point de vue... l'énergie, vous la payez tranquillement au rythme de votre montée de marche, qui peut être un peu longue, un peu fatigante, mais c'est tranquille. Alors que les fusées, vous voyez que l'énergie développée, la puissance plutôt, développée par les fusées, c'est énorme pour monter finalement assez vite en orbite géostationnaire. Là, vous montez lentement. Donc la puissance que vous dépensez est moins grande, même si à la fin, vous devez payer l'énergie, la même énergie. Mais simplement, vous la montez. C'est la différence entre faire le Mont Blanc en montant circulairement très, 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 très lentement, ou alors dire, allez, c'est bon, on y va plein pot, et on monte directement par la voie la plus courte, quoi. Vous ne payez pas la même énergie, même si à la fin, vous arrivez au même endroit. Donc tous ces matériaux-là, dans le cas du monofilament, maintenant, c'est quelque chose qui existe. Ça s'appelle les nanotubes de carbone. Sauf qu'on sait en faire des struss qui font quelques centimètres de long, qui sont très très fins. On ne sait pas en faire les 140 000 km, on ne sait pas le tisser, on ne sait pas faire plein de trucs avec, mais Voilà, le cahier des charges, il y a un matériau qui remplit le cahier des charges au moins sur quelques centimètres. Donc, bon, peut-être on arrivera à des choses plus spectaculaires.
Je croyais que le cahier des charges, c'était 144 000 km.
Voilà, c'est ça. Maintenant, il ne faut pas faire quelques centimètres, faire 144 000 km. Mais au moins, sur quelques centimètres, on sait faire un matériau qui a des propriétés mécaniques incroyables, bien supérieures à celles de l'acier ou à celles des matériaux habituels, le Kevlar ou les fibres de carbone, les matériaux réputés les plus performants, disons, en termes de résistance à la traction. Un matériau en plus qui est très peu dense, enfin relativement peu dense, beaucoup moins dense que les métaux. Bref, ça sent bon, mais on en est encore loin. Quelques centimètres à 144 000 km, vous voyez, il y a quand même une petite différence. Après, il faut le bobiner, il faut le tisser. Bon, il y a plein de problèmes techniques qui se posent derrière, mais le problème fondamental qui était, est-ce que le matériau existe ? Maintenant, il est résolu, le matériau existe, il est pas encore, donc il remplit pas complètement le cahier des charges. Mais ça qui est assez amusant, c'est de voir qu'on peut chiffrer, moi c'est ça qui m'amuse beaucoup, c'est essayons de fixer le cahier des charges de ce qu'on nous montre pour réaliser que finalement, c'est tellement délirant que on oublie, quoi. Ou alors non, c'est pas loin de ce qu'on sait faire, mais le pas loin, des fois, entre le... C'est un pas loin qui est finalement...
Ce n'est qu'une dizaine d'ordres de grandeur.
Exactement, voilà. Mais c'est toute la différence entre c'est impossible ou ça n'existe pas, ou alors là, c'est une sorte d'impossibilité rédhibitoire, et puis ça existe, mais c'est très difficile. Très, 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 très difficile. Alors le très, très, très difficile peut rendre en pratique la chose impossible, mais on a l'espoir que ça arrivera peut-être un jour.
Oui, enfin, peut-être qu'il va falloir nous créer des démons de Maxwell pour mettre de l'ordre dans tout ça.
Ou bricoler.
Raphaël, tu es romancier et physicien.
Mais justement, je ne mets pas beaucoup de physique dans mes romans, je vais vous dire pourquoi. Tu as mis le doigt sur quelque chose de très fondamental, je crois. C'est qu'aujourd'hui, l'invention de nouveaux matériaux est vraiment dans le camp des auteurs de science-fiction. À part la mise en œuvre de matériaux qui existent déjà, toi, tu mets en œuvre du vivant, ça existe, le vivant existe déjà et tu réussis à le réorganiser, à faire des transformations, si je puis dire, mais c'est pas un nouveau matériau au sens vraiment physique du terme. Et la raison fondamentale de ça, c'est qu'en physique, il n'y a pas eu de révolution conceptuelle profonde au niveau le plus fondamental depuis pas mal d'années. Je pense que la dernière qui donne lieu à quelque chose qui ressemble à des matériaux, c'est l'atome, quoi. C'est le noyau, c'est la physique nucléaire. Et choses comme ça, c'est ça qui, il y a 100 ans donc, et c'est cette révolution-là qui a donné quelque chose de concret, de matériel, des barres d'uranium qui nous donnent notre énergie pour des applications assez concrètes. Dans la physique la plus fondamentale aujourd'hui, on a un modèle qui fonctionne extrêmement bien depuis, il est vraiment assis depuis une quarantaine d'années, qui s'appelle le modèle standard, et qui décrit vraiment comment la matière se fabrique et tous les phénomènes qu'on observe de façon diaboliquement précise et qui nous donne essentiellement les atomes et les noyaux tels qu'on les connaît. Il n'y a pas de révolution conceptuelle forte, donc il n'y a pas d'idées scientifiques démontrées, prouvées. Il y a des tas d'idées scientifiques spéculatives qui sont très intéressantes, mais il n'y a rien de démontré, de prouvé qui pourrait donner quelque chose comme un matériau qui nous ferait une sphère de Dyson ou un ascenseur spatial.
En même temps, il y a quand même des tas de nouveaux matériaux qui sont fondés sur des lois qui sont connues depuis très longtemps. Mais on découvre, par exemple, on imaginait, pour dire choses techniquement, pendant longtemps, qu'il y avait deux formes allotropiques stables du carbone. Techniquement, ça veut dire qu'il y a le carbone diamant et le carbone graphite. Donc, en fait, entre le diamant, qui vaut cher le kilo, et le graphite, qui sont dans les mines de crayons, c'est qu'une différence d'organisation. C'est ça qui est dément. C'est que ce n'est que la façon dont les atomes de carbone sont organisés qui change l'aspect final du matériau et à la fin, le prix du matériau. Le carbone graphite ou le carbone diamant. On a découvert avec les nanotubes et avec plutôt les C60, ce qu'on appelle les fullerènes. On a découvert une nouvelle forme allotropique stable du carbone qu'on n'avait jamais constatée dans la nature, mais qui est stable, qui pourrait être produite naturellement, mais dans des conditions qui n'ont pas été réalisées dans la nature, qu'on sait produire et qui a donné toute cette révolution des, disons, nanotubes ou toute la manipulation du carbone à très petite échelle. Donc ça, c'est quand même un truc incroyable. Et en plus, on a récemment, il y a eu le prix Nobel pour ça, imaginez, trouver les graphènes. Les graphènes, donc là, c'est des plans de carbone, cette fois-ci, avec des propriétés nouvelles, parce que le matériau a une dimensionnalité qui est vraiment bidimensionnelle. C'est une couche monoatomique de carbone avec une organisation structurelle très particulière et qui a des propriétés incroyables qu'on n'avait jamais constatées dans d'autres matériaux. Donc on observe de nouveaux matériaux aux propriétés stupéfiantes. On fait aussi de la bio-inspiration, c'est-à-dire on s'inspire de matériaux ou de structures vivantes ou de structures qu'on trouve dans la nature. Par exemple, les feuilles de lotus, la surface des feuilles de lotus où l'eau glisse là-dessus et ne mouille absolument pas la surface. On sait reproduire maintenant ces structures de feuilles de lotus à l'échelle nanométrique. On sait le faire de manière artificielle, avec le lotus en faisant pousser du lotus. Mais si on veut le mettre sur, par exemple, un pare-brise de voiture où il n'y a plus besoin d'essuie-glace, l'eau coule naturellement, lave les poussières et le simple fait que vous rouliez... évacue l'eau sans avoir besoin d'avoir un bras mécanique qui vous efface l'eau dessus. D'accord. Donc on sait faire ça maintenant. Ce n'est pas encore vendu en vente libre, mais ça ne saurait tarder à mon avis. On s'inspire alors là, évidemment, pour le coup, des structures biologiques. C'est-à-dire ça, c'est, moi, ça me sidère qu'on soit capable d'imprimer du vivant. Enfin, moi, je trouve ça absolument sidérant. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de révolution conceptuelle. On va pas... On a pour l'instant... On reprend soit des structures existantes de la nature qu'on arrive à reproduire, et c'est déjà assez incroyable, soit on découvre des choses qu'on pouvait peut-être imaginer, mais qu'on n'avait pas constaté dans la nature, et qu'on est capable de produire maintenant, ce qui fait quand même tout un tas de matériaux assez incroyables. Mais il n'y a pas de révolution structurelle.
Tu as dit les mots-clés, ouais. C'est essentiellement une question de structure. Et tu as dit qu'on observait le graphène. En fait, on ne les observe pas, on les fabrique. On les fabrique, ce n'est pas des nouveaux phénomènes qui sont observés comme on pourrait en rêver en physique fondamentale qui nous donneraient des nouvelles perspectives. Il y a quand même des espoirs en physique fondamentale. Moi, j'en vois deux essentiellement. Il y a l'antimatière, alors ce n'est justement pas de la matière. Qui commence à être un petit peu stocké, alors à un coût énergétique très, très élevé, mais qui pourrait avoir commencé à avoir des applications, pas tant dans les matériaux, mais que, par exemple pour la propulsion spatiale ou des choses comme ça. Donc l'antimatière, vous voyez, hein, c'est l'exact opposé de la matière. C'est quand l'antimatière rencontre la matière, ça produit un rayonnement extrêmement fort. C'est beaucoup plus intense que tout ce qui est nucléaire en termes d'énergie. Donc ça, c'est un peu une piste qui commence à balbutier. On commence à stocker un petit peu d'antimatière. Peut-être qu'on va commencer à faire des antimatériaux. Alors le problème, c'est que leur propriété principale, c'est de détruire ce qu'il y a autour en libérant beaucoup d'énergie. Donc c'est pas vraiment une matière au sens de ce que tu fabriques, toi.
Du coup, c'est pas facile à stocker, quoi, aussi. Hein.
Ouais.
On peut pas mettre une boîte avec de l'antimatière dedans, quoi. Sinon, la boîte, elle explose. Et puis voilà.
Il faut une boîte de rayonnement avec du rayonnement électromagnétique.
Une boîte magnétique, quoi, c'est ça. Ouais.
Et donc ça, c'est la première piste. Et avec quelque chose d'assez excitant sur l'antimatière, c'est que on connaît pas bien sa gravité. Tout le monde pense qu'elle est exactement pareille que celle de la matière elle-même. Mais on va peut-être avoir une très grosse surprise quand on la mesurera. Et si ça se trouve, la cavorite, elle est peut-être là. J'y crois pas trop, mais c'est quelque chose qu'il faut aller voir et qu'il faut vérifier. Et l'autre chose géniale, c'est qu'il existe dans l'univers une matière qu'on connaît pas, qui s'appelle la matière noire. En observant les astres, on voit très bien qu'ils bougent beaucoup plus vite que les conséquences de la gravité telles qu'on de la matière qu'on observe et qu'on connaît. Donc il existe forcément une autre forme de matière. Alors qu'est-ce que c'est? Et il y a beaucoup de... Qu'est-ce que c'est? On sait pas essentiellement. Il y a plein d'hypothèses. Et il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui commencent à s'emparer de cette matière noire dont on a beaucoup parlé récemment pour fabriquer des choses. Ils inventent, ça leur permet d'inventer une nouvelle matière en lui donnant une résonance avec quelque chose qui est a priori existe, même si on ne l'a jamais observé, enfin directement observé, et on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a de l'espoir hein, pour des nouveaux matériaux en physique très fondamentale, donc pas juste en restructurant ce qu'on connaît, mais vraiment en découvrant quelque chose de complètement différent et avec une vraie cassure conceptuelle avec ce qu'on connaît. Quoi. Mais bon, c'est la science-fiction.
Bah tiens, dans le genre science peut-être fiction, Roland, est-ce que tu as suivi ce qui est paru dans les médias ce mois-ci à propos de KIC 84-62-852
Oui, alors, ça c'est l'étoile... avec un nom de catalogue absolument affreux, parce que c'est maintenant toutes les étoiles. On a nommé les étoiles il y a longtemps, puis maintenant, bon, c'est plus un problème. Il y a des noms de catalogue, et puis on s'embête plus.
Si elle est vraiment intéressante, on va lui trouver un nom sympa.
Ouais, si elle est vraiment intéressante,
on aura un nom. Elle est quand même à 1500 années-lumière, donc ouais, elle n'est pas les plus proches.
On n'est pas très près d'y aller. Donc c'est cette étoile dont on a observé des variations de luminosité. Alors ça, c'est, on observe des variations de luminosité sur les étoiles pour plein de raisons. D'abord, il y a des étoiles variables hein, qui varient périodiquement, avec des mécanismes de physique maintenant qu'ils ont raisonnablement compris sur cette périodicité. Il y a des étoiles qui varient périodiquement aussi, dont la luminosité varie périodiquement, mais alors de manière extrêmement faible, parce que de temps en temps passe devant ces étoiles une planète qui est en orbite autour de l'étoile, une exoplanète, et là c'est un moyen de détecter des exoplanètes, donc une sorte de micro-éclipse. L'étoile, la planète passe devant, ça fait une toute petite baisse, alors j'amplifie une toute petite baisse de luminosité, et la façon dont cette luminosité varie permet de qualifier la taille de la planète et son orbite. Et donc c'est en observant plein d'étoiles à la fois, essayant de détecter ces micro-variations, peut-être dues, alors il faut accumuler des données pour être sûr que ce n'est pas un artefact ou une tache, comme il y a des taches solaires à la face du Soleil, une tache sombre à la surface de la planète, à la surface de l'étoile. Et puis pour cette étoile Kik avec un numéro infernal, on voit des baisses qui sont non périodiques et des baisses de grande intensité, c'est-à-dire de grande importance, 20% typiquement, de 10 à 20% de baisse, et non périodiques. Alors, on tombe devant une situation un peu bizarre. Donc, évidemment, on a envie d'en savoir plus. Les astrophysiciens ont envie d'en savoir plus. Et puis, évidemment, ça peut susciter l'emballement intellectuel. On se dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable? Alors il y a des gens qui ne sont plus à imaginer que ça pourrait être une sphère de Dyson en construction, qui est en train de tourner, puis alors de temps en temps elle passe devant, puis alors évidemment on peut imaginer ça. Bon, c'est une possibilité, hein, on ne peut pas l'exclure complètement. En fait, il y a beaucoup d'autres possibilités bien plus prosaïques et bien plus, comment dire, et bien moins spéculatives. Une de celles qui a pour l'instant le vent en poupe, c'est l'idée que cette étoile, elle a comme notre Soleil, hein, comme dans notre système solaire, il y a éventuellement des planètes en orbite autour de cette étoile, éventuellement. Et elle a probablement en se formant, elle avait il y a eu un disque à partir duquel s'est formée l'étoile. Donc ça, c'est la partie centrale de l'étoile. Et puis il y a un disque de débris, finalement, de résidus, à partir desquels, un disque qu'on appelle protoplanétaire, à partir desquels sont formées les éventuelles planètes et les éventuellement corps qui sont en orbite autour de cette étoile. Certains de ces corps sont peut-être trop petits pour qu'on les observe ou pas encore finis. Si c'est une étoile jeune, il peut y avoir encore des débris. Et il y a aussi éventuellement un réservoir cométaire. Dans notre système solaire, il y a essentiellement les planètes, les 8 planètes, la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il y a la ceinture de Kuiper, qui est des petits corps, disons, dont Pluton est le premier représentant. Et puis tout un tas de petits corps qui sont maintenant plusieurs centaines, qu'on appelle les objets transneptuniens aussi, qui sont là des objets froids, des sortes d'astéroïdes, mais une ceinture d'astéroïdes, mais plus lointaine, disons, donc beaucoup plus froide, et beaucoup des corps beaucoup plus petits et glacés. Et puis très au-delà de ça, il y a une hypothèse pour l'instant, mais qu'on n'a jamais observé de corps. En même temps, c'est là dont on pense que sont issues les comètes non périodiques, des comètes qui passent dans le système solaire qu'on ne voit plus jamais. Il y a des comètes périodiques, comme la comète de Halley, qui reviennent régulièrement, tous les 76 ans pour la comète de Halley. Et donc ce réservoir-là, on l'appelle le nuage de Oort. Donc tout un tas de débris, très froids, très peu lumineux, très nombreux éventuellement, qui auraient une sorte de halo sphérique qui entourerait le système solaire et qui marquerait finalement la limite gravitationnelle de l'influence du Soleil et qui pourrait être déstabilisé. Ces petits corps, ils sont très très loin du Soleil, donc ils sont très peu liés gravitationnellement au Soleil. Donc ce qui fait qu'une étoile passe pas trop loin. Pas trop loin, ça veut dire à 2-3 années-lumière. Hein, c'est pas à l'échelle des distances entre étoiles. À notre échelle, pour nous, c'est loin, mais l'échelle des distances entre étoiles, c'est pas très loin. Et qui déstabilise et de temps en temps font tomber un de ces petits corps et ça fait ces comètes non périodiques. Et donc là, on pense que peut-être c'est dans ces débris, ce serait un système solaire, disons, en fin de formation. Il y aurait encore suffisamment de débris présents. Le ménage n'a pas été fait. Et puis en tombant, ça forme, il s'évapore, ces objets-là s'évaporent ou se brisent en approchant du sol. Soit se brisent sous l'effet des forces de marée de l'étoile, soit s'évaporent parce que ces objets glacés, donc il y a une forte évaporation, un peu comme la comète Churyumov-Gerasimenko qui s'est évaporée considérablement en passant. Avec Churi, c'est la comète de Rosetta, enfin de la sonde Rosetta, pour ceux qui l'ignoraient. Et donc on a vu l'évaporation, donc l'éjection considérable de matière cométaire. Là, c'est un seul noyau cométaire, mais imaginez des centaines, des milliers de noyaux cométaires qui tombent en même temps vers le Soleil, qui passent près du Soleil et qui éjectent cette poussière qui va diffuser la lumière et qui va finalement occulter partiellement la lumière de l'étoile et qui pourrait expliquer les variations à la fois périodiques, parce que c'est un peu tout le monde qui tombe en bazar désordonné, et en même temps qui peuvent avoir, s'ils sont assez nombreux, occulter suffisamment. Donc l'explication est probablement plus prosaïque, mais c'est vrai que les journaux se sont plus emparés de l'explication un peu sexy, du genre « Ah oui, ça y est, on a trouvé une super civilisation en train de faire des sphères de Dyson à 1500 années-lumière. » Bon, pourquoi pas? On ne peut pas l'exclure complètement, mais il y a probablement des choses plus prosaïque, plus naturel, disons, oui, moins exceptionnel à l'œuvre autour de cette étoile, évidemment.
Et aussi, la sphère de Dyson ne serait pas forcément en construction. C'est l'idée qu'une sphère de Dyson a forcément des trous dedans. Parce que
alors, en construction, on la met en petits bouts, parce qu'on peut, voilà, elle peut se faire par... comme on fait des miroirs de télescopes maintenant segmentés, on n'a plus un seul grand miroir, on a des télescopes qui sont en plusieurs miroirs. Le télescope fonctionne dès qu'on a mis un bout de miroir. Évidemment, il n'est pas aussi performant que quand tous les bouts du miroir sont là. Hein. Donc là, c'est pareil, la sphère de Dyson, on pourrait imaginer des panneaux solaires, pour faire les choses un peu brutalement, des panneaux solaires, un petit panneau solaire de 1 km carré, puis un autre, puis un autre, puis au bout d'un certain temps, quand on a mis des zillions de panneaux solaires de 1 km carré, ça fait une super grande structure qui capte beaucoup d'énergie de l'étoile.
C'est plus vraiment une sphère.
C'est plus vraiment une sphère. C'est
pour justifier la périodicité de l'étoile, il faudrait que ce ne soit pas une sphère.
Il ne faudrait pas une sphère, absolument.
Oui. Fabien, sur les tissus imprimés, on n'a pas encore posé la question. Ça n'a jamais été utilisé sur les patients humains pour le moment. Est-ce qu'il y en a eu d'implantés sur les patients humains?
Non, pas encore à ce jour. Il y a eu des...
Montre-nous ton avant-bras.
Pas encore. Il y a eu un certain nombre d'expérimentations animales qui ont déjà été réalisées, mais pas encore d'essais chez l'homme. Vraisemblablement, même si... les choses vont de plus en plus vite, ça ne devrait pas être le cas avant 5-6 ans, mais malgré tout
c'est un horizon assez proche,
voilà. Et non, il y a un certain nombre de laboratoires à travers le monde qui s'intéresse à ces approches avec, et aujourd'hui à peu près tous les organes du corps humain font l'objet de, d'approches de bioimpression. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'on ne développe pas de nouveaux matériaux, mais c'est vrai que dans le cadre de la bioimpression, c'est la question fait débat. Est-ce qu'on va simplement se limiter à la reproduction des tissus tels qu'on les observe et dans notre organisme, qui serait éventuellement pas forcément adapté à certaines activités, ou en tous les cas dont les performances pourraient être limitées à certains regards, ou alors est-ce qu'on ne va pas chercher à améliorer ces tissus ou leurs propriétés pour les doter d'une meilleure résistance mécanique, de capacité de filtration supérieure. On peut imaginer beaucoup de choses. Je crois que ça fera l'objet d'une table ronde demain aussi. Mais c'est vrai que dans le contexte de la bioimpression, la possibilité de créer des chimères, des structures qui n'existent pas, fait débat, et je pense devrait être l'objet d'un certain nombre de débats dans le futur.
Je te parie qu'on va le faire pour la chirurgie esthétique, ça.
Non,
on n'aura pas, pas de frein. Là.
Il nous faut un foie performant et on aura du whisky au lieu de ça.
Ça a été une demande je ne vais pas citer son nom, d'un homme politique justement qui m'a dit « Est-ce que vous pouvez travailler sur le foie ?» Je ne sais pas pourquoi. ça concerne beaucoup de gens.
Ah ben oui, parce que là, il y a quand même aussi dans cette affaire de bioimpression, il y a quand même un rêve incroyable, ça veut dire de pouvoir reproduire tous les organes et donc de pouvoir faire des prothèses, des vraies prothèses organiques. Du coup, c'est plus des prothèses, c'est on remplace l'organe déficient pour partie par quelque chose qui est naturellement compatible, qui est exactement la fonction de l'organe présent, voire qui l'améliore éventuellement. Donc il y a quand même un rêve de vie en ligne de mire, évidemment, qui n'est pas celle probablement des gens qui travaillent dedans, mais ça va très très vite à... j'ai plus qu'à me remplacer pièce par pièce. Voilà. Et puis, à part le cerveau, tout va rouler.
C'est le concept d'organes sur étagère que certains... un réservoir de pièces dont on pourrait disposer, qu'on se constituerait à mesure...
Est-ce qu'il y a une réflexion, j'imagine, mais une réflexion éthique qui est posée, parce que les chercheurs qui sont la tête dans le guidon, ils peuvent être dans leurs travaux, ce que je peux comprendre tout à fait comme chercheur moi-même. Même sur l'astro, les réflexions éthiques sont pas tout de suite arrivent pas tout de suite. Mais là, du coup, ça pose aussi évidemment des tas de questions éthiques finalement. De qu'est-ce qu'on va faire avec ça? À qui ça sera? J'imagine que la première fois que ça se vendra en commerce, il y aura des expérimentations. Puis après, en tout cas aux États-Unis, si ça arrive, je pense que ceux qui ont de l'argent vont pouvoir se bio-imprimer plus facilement que le pauvre asbitum du quartier du Bronx. Hein.
Il y a évidemment des questions éthiques extrêmement importantes. C'est vrai que quand on est technologue, je dirais que ce n'est pas à nous d'y répondre. On peut avoir notre avis sur la question. Et au niveau de la société Poietis, on s'est donné un certain cadre, on va dire moral, mais qui nous concerne. Après, au niveau éthique, c'est vraiment, et c'est l'enjeu, je pense, de débat tel qu'aujourd'hui, c'est aux sociétés de définir en fait les limites. Et par contre, on peut parier que les limites ou les perspectives qui seront données éventuellement en France et celles que pourraient donner nos collègues en Californie, par exemple, seraient différentes et ça sera la même chose en Asie. Donc c'est les limites de l'éthique. Après, l'éthique, c'est quelque chose qui évolue extrêmement rapidement. En fait, on se rend compte que globalement, il n'y a pas d'éthique. Il y a une éthique en 1980 et il y a celle de 2015.
Il y a même des techniques qui évoluent encore bien plus vite que les capacités de digérer les conséquences de la technique, finalement.
Complètement. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on observe, notamment du fait de l'importance du numérique et la vitesse, en fait. Pourquoi la bioimpression se développe aussi rapidement? Parce que derrière, c'est une technologie du numérique. On va pouvoir modéliser le vivant et grâce à cette modélisation du vivant, anticiper ou la fabrication, concevoir des fichiers numériques qui seront les plus adaptés à la fabrication d'un tissu.
Et tout sera chez soi, je te mets pas un petit pansement, mais mets ta jambe avec ton petit bobo sous le truc, et voilà, c'est réglé.
Et se pose la question de la propriété intellectuelle du fichier numérique après. Donc il y a des vraies questions derrière tout ça.
Ah, bloqué, vous n'avez pas payé vos droits d'accès. Tant pis, restez avec votre bobo. Ah merde, mais on vend plus de sparadrap.
Mais c'était déjà le thème de Naissez, nous ferons le reste, un roman de Patrice Duvic, paru dans les années 80. En attendant qu'on ait des disques mous externes pour nos cerveaux. On a besoin de vos cerveaux, peut-être. Donc, j'espère qu'il y aura des questions dans la salle auxquelles nos participants puissent répondre, ou au moins qui continuent de nous faire réfléchir. Alors, je le vois. Oui, il y a une main qui se lève là-bas derrière. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur?
Il y a une question à gauche.
Il y avait une main au fond là-bas. Il y avait une
C'est celui qui a le micro qui a le pouvoir, malheureusement, et donc c'est lui là-bas.
Là, à gauche.
Allô? Je me posais la question, vous avez parlé des nouveaux matériaux, des matériaux inventés en fiction pour répondre, pour un cahier des charges, pour tester en fait ces nouveaux matériaux, mais vous n'avez pas abordé le mélange de matériaux, faire des alliages entre des matériaux déjà existants, peut-être un peu plus réalistes, qui seraient peut-être un peu moins fictifs. Enfin, ça dépend, parce que c'est peut-être des questions compliquées, j'y connais rien. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ces alliances de matériaux, de mélanger des matériaux pour avoir des propriétés, d'avoir les bons côtés de certains matériaux mélangés? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ben ça, le mélange de matériaux et l'alliage, c'est un des premières, les premiers matériaux qu'on a fait, c'est des alliages. Le bronze, quand on était à l'âge du bronze, enfin, ils ne le savaient pas à l'époque, mais enfin, ils faisaient déjà un alliage. Quand on est à l'âge du fer et quand on a fait l'acier, c'est un alliage. Donc, en fait, l'alliage de matériaux, ça a toujours existé, quoi. Et puis, quand vous voulez rouler, vous mettez un peu de n'importe quoi dans les pièces d'or. Ça évite de mettre trop d'or dans les pièces et donc vous faites de l'inflation sur des pièces d'or. Donc, l'alliage, c'est la base, d'une certaine façon, des matériaux métalliques. Si on pense au verre, par exemple, l'invention du verre est très ancienne, mais des additifs, sans les maîtriser forcément, permis de faire des verres colorés, des verres avec des propriétés différentes. Maintenant, on a des verres, on a un catalogue de verres différents qui est absolument hallucinant. Donc, les alliages, c'est pratiquement... c'est en même temps qu'on fait les premiers matériaux, en tout cas les matériaux métalliques, même les verres, on fait directement des alliages. Donc, en même temps, c'est mélangeant. On essaie d'avoir le meilleur de deux mondes, un matériau qui va être résistant et puis l'autre qui va être brillant, ou un matériau qui va être qui va peu s'étendre, un matériau qui va s'étendre, qui va se contracter et l'autre va se dilater à la température. On va les mélanger pour avoir, c'est dans le cas du verre, pour avoir un verre qui s'appelle zéro dur, un verre qui ne se dilate pas, qui va être utilisé dans les miroirs de télescope, par exemple, un verre qui sera très stable thermiquement, de sorte que les dilations thermiques ne viennent pas perturber la forme du miroir, bon, etc. Donc, on essaie de tirer le meilleur des deux mondes. Ça reste quand même... très basique d'une façon, c'est-à-dire on fait des mélanges, ça peut être par essai erreur, on fait plein de mélanges différents avec plein de proportions, on essaierait de faire des diagrammes de phase, ce qu'on appelle typiquement des diagrammes de phase, pour essayer d'avoir, pour le fer carbone, il y a des diagrammes de phase fer carbone qui sont maintenant très bien connus, pour avoir toutes les phases du fer, la fonte, l'acier, le fer de ci, de là, quand il y a trop de carbone, ça ne va pas, bref, on va un peu balayer tous les possibles de ces mélanges. Il y a des mélanges qui sont plus ou moins faciles à faire, des matériaux qui ne sont pas miscibles forcément, des matériaux qu'on n'arrive pas à mélanger avec un bon mélange, avec une bonne densité, avec une bonne répartition, une bonne homogénéité. Bon voilà, donc c'est un peu essai-erreur. Il n'y a pas d'autre solution malheureusement que de faire essai-erreur. On ne sait pas prédire à l'avance les qualités que va avoir un alliage de métaux, par exemple. On ne sait pas prédire à l'avance ces qualités. Il faut le faire. L'alliage, vérifier, tester, vérifier si ça correspond à un certain cahier des charges. Et puis, si ça ne correspond pas, c'est pas grave, on l'archive. Et puis, si on cherche à un moment donné, on cherche dans l'archive pour trouver ce qui nous convient. Donc, l'alliage, quand on voit des matériaux, par exemple, la cavorite, dans la cavorite, la phrase du texte est qui a été fait avec un alliage de certains matériaux particuliers. Il ne s'étend pas sur la formule, évidemment, il n'est pas con. Hein. Il mentionne un alliage. Donc, donc voilà, il y a cette idée-là, elle est vraiment tout le temps présente. En même temps, on ne réussira pas à battre ce qu'on sait. Enfin, il y a des propriétés qui sont pratiquement intrinsèques à la matière. L'énergie de liaison entre deux atomes métalliques, elle est toujours de l'ordre d'un dixième d'électronvolt, pour dire ça techniquement. Ce qui veut dire que la température de fusion sera toujours de l'ordre de quelques milliers de degrés. Et évidemment, il y aura celui qui sera à 3700 degrés et celui qui sera à 3800 degrés. Mais il n'y aura pas le matériau solide qui sera à 10 000 degrés de température de fusion, par exemple. Parce que c'est fixé fondamentalement par l'énergie de liaison entre les atomes de la matière qui sont toujours du même ordre de grandeur. Et ça ne vous donnera pas un matériau qui fond à 10 000 degrés. Ça sera toujours au mieux. Alors vous allez raffiner un peu, trouver 3800 plutôt que 3700 ou 3950. Vous allez gagner un petit peu, mais vous n'allez jamais avoir un ordre de grandeur. Vous n'allez pas avoir un matériau qui fond à 10, 20 000 degrés. Ça n'existera pas. Parce qu'à cette température-là, donc à ces énergies-là, vous battez l'énergie de liaison, de toute façon, de la matière solide ordinaire, et ça en fera un solide qui va devenir liquide, ou un liquide, évidemment, qui deviendra vapeur. Donc, il n'y a pas d'espoir d'avoir le super matériau par des alliages simples, parce que c'est fixé par des propriétés très fondamentales de la matière.
Attends, après, on peut peut-être faire des alliages avec les nouveaux matériaux. On peut peut-être mettre une peau de graphène sur une peau alors après, biologique voilà, pour mais se alors faire ça, une armure.
Exactement. Alors, on peut imaginer des choses, mais ça va toujours être de la matière solide, d'une certaine façon. Hein. Donc, l'énergie de liaison, l'intensité de la liaison entre deux constituants élémentaires du matériau. Donc, ça va varier. entre pas beaucoup et un peu plus, mais ça sera pas le truc dément qui fera que vous résisterez à tout, quoi. Genre, comme il y avait aussi dans... Alors, c'est dans quoi, ça? Dans un bouquin de Van Vogt où il y avait l'acier 9 points. Voilà, l'acier 9 points. Le machin, vous envoyez une bombe nucléaire dessus, puis de l'autre côté, il n'y a aucun problème, quoi. Non, non. La bombe nucléaire, elle envoie une énergie énorme. Et donc, si vous la rapportez à l'énergie par atome, ça fait un truc qui vous pulvérise le matériau que vous avez sous la main. Il est pulvérisé, tout simplement. Il est fondu, vaporisé. Enfin, il ne tient pas la route. Donc, il y a des propriétés très fondamentales de la matière qui vous empêchent, d'une façon, de faire le super matériau.
Je crois qu'on a une question.
Ah, il y a Gérard qui a une question.
Oui, il y a une question importante, en particulier pour les auteurs de science-fiction, c'est la supraconductivité et les matériaux très étranges qui permettent de s'approcher d'une supraconductivité à température ambiante.
Bien sûr, la supraconductivité, c'est l'idée que l'on puisse produire un matériau à travers lequel le courant électrique se propage sans résistance. Autrement dit, comme il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de dissipation de l'énergie électrique sous forme de chaleur. Et donc, quand vous avez ça, vous pouvez faire des choses absolument stupéfiantes. D'abord, du point de vue transport électrique, vous n'avez plus de pertes en ligne dans le réseau électrique. Les pertes en ligne dans le réseau électrique français, juste pour donner un ordre de grandeur, les pertes dans le réseau électrique français, c'est égal à la consommation électrique du Zimbabwe. D'accord ? Donc, ce qu'on perd, il y a des pays qui vivraient de ça, du point de vue électrique. Donc, ce n'est pas négligeable complètement. Et donc, si on a ça, on fait des choses incroyables. Simplement, la supraconductivité existe déjà. Des matériaux à très basse température sont supraconducteurs. À peu près n'importe quel métal à moins 270 degrés, en gros, est supraconducteur. On sait faire des matériaux qui ne sont pas des métaux, enfin, qui sont des alliages, des subtils, des matériaux, des alliances subtiles de matériaux qu'on a trouvés complètement par hasard, qu'on appelle à haute température. Ça veut dire qu'ils sont supraconductifs, ils sont supraconducteurs, en gros, moins 120 degrés Celsius. Ça veut dire que c'est quand même pas... c'est pas ce que j'appellerais température ambiante. Ça reste ce qu'on appelle à haute température. Le Graal auquel faisait référence Gérard Klein, c'est le supraconducteur à température ambiante. C'est-à-dire, vous ne faites rien et le matériau est supraconducteur. Donc là, vous en mettez dans les câbles de micro, vous en mettez dans les lignes électriques, vous en mettez partout, dans les ordinateurs, dans les trains à sustentation magnétique, parce qu'on peut faire de la lévitation supraconductrice. Donc là, on commence. C'est le matériau, le fameux unobtainium qu'on observe, dont on discute, dont il est question dans le film Avatar. C'est un supraconducteur à haute température. Donc on peut essayer de comprendre pourquoi les humains vont le chercher sur Pandora. Bon, en même temps, on pourrait le fabriquer sur Terre. Dès qu'on a la formule, entre guillemets, on essaie de le reproduire sur Terre.
Alors, il se fait un peu tard. Donc déjà, je crois que... Eh oui, déjà, on va prendre peut-être une dernière question. Il y avait quelqu'un là-bas, non? Je crois que ce monsieur avait levé la main depuis longtemps, mais je ne sais pas s'il y a un micro à proximité.
Celui qui a le micro a le pouvoir, comme d'habitude, ici.
Le micro est là-bas.
Mais ça y est, j'ai le pouvoir. Donc,
le président.
Vous avez parlé tout à l'heure de la fleur ou la feuille de lotus. Est-ce qu'il y a dans la nature, je suppose qu'il y a beaucoup de merveilles qui sont étudiées, que ce soit dans le monde minéral, végétal ou animal, est-ce qu'il y a d'autres exemples qui pourraient nous donner justement des pistes de matériaux?
Ah oui, oui, bien sûr. Il y a, par exemple, si vous regardez certains papillons, les couleurs de certaines ailes de papillons ne sont pas des couleurs qui sont faites par pigments. Vous, les couleurs de nos habits, tout ça, c'est des pigments, c'est de la couleur. Enfin, c'est vraiment, pour faire noir, on a mis du noir. Pour faire rouge, on a mis du rouge. Enfin, du noir, ça veut dire une molécule ou un ensemble de molécules qui absorbe toutes les longueurs d'onde. Là, ça absorbe tout sauf le rouge. Et donc, on voit rouge. Il y a des ailes de papillons pour lesquelles les couleurs ne sont pas par pigments, mais sont par résultat des interférences lumineuses de la lumière incidente, la lumière ambiante, et qui est sélectionnée par interférences lumineuses. On sait faire maintenant des choses qu'on appelle des cristaux photoniques, des objets qui ont des couleurs, et parce que vous avez mis du pigment, qui résulte ces couleurs uniquement de la structure microscopique de la matière. Et la façon dont cette matière est organisée au niveau microscopique provoque la couleur. Et on sait même faire des choses encore plus... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas épuiser le dernier temps, mais il y a des choses incroyables qu'on sait faire, au point de vue coloré, par exemple, qui résultent uniquement de l'organisation microscopique de la matière. Par exemple, si je vais le dire quand même, il y a de l'or nanométrique. Vous mettez des suspensions d'or nanométrique et selon la taille des particules d'or, enfin des petits blocs d'or nanométriques, selon la taille, la suspension a une couleur différente. Ça résulte uniquement de la taille de la particule qui est mise en suspension. Ah, Gérard, encore une remarque. Allez, on va pas...
Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la matière condensée, de la physique quantique, des propriétés très singulières?
Alors, il y a déjà des choses, qu'on appelle les condensats de Bose-Einstein. Ça, ce sont des, on arrive à faire de la matière dans des états très singuliers, bon, en laboratoire, dans des conditions très maîtrisées. Et maintenant qu'on sait reproduire, alors n'importe quel laboratoire de physique atomique sait faire ça maintenant, alors qu'il y a encore 20 ou 30 ans, c'était le top du top des gens qui savaient faire ça. Donc, on arrive à réaliser en laboratoire des états de la matière qui étaient prévus par la théorie microscopique, par la mécanique quantique, on sait le faire. Je ne crois pas qu'on en imagine encore d'application très directe, enfin, sauf peut-être les états intriqués de la matière, mais je vais laisser la parole à Raph. Donc, on commence à produire des conséquences de ça, mais ce n'est pas encore à l'état, disons, industriel, où tout un chacun pourra en profiter dans son cuisine.
Tu as raison, il n'y a pas d'application en termes de matériaux, vraiment, pour l'instant. C'est-à-dire, matériaux, il faut instrumentaliser le truc, il faut en mettre beaucoup, il faut faire une structure et tout ça. Par contre, oui, il y a les états intriqués sur la cryptologie et les choses comme ça, l'ordinateur quantique, tout ça, c'est des choses qui sont assez excitantes.
Ça balbutie, c'est un work in progress, ça tend vers des choses, pas tout à fait celles qu'on avait imaginées, pas aussi bien qu'on avait imaginées, mais voilà, il y a des explorations qui sont faites là-dessus. Il y a déjà de la cryptographie par état intriqué qui est vendue par les Suisses. Il y a une société suisse qui vend ce service-là. Alors, à ceux qui ont les moyens, donc typiquement des banques suisses, qui ont des besoins d'échanges d'informations très sécurisés, ça se fait sur des distances courtes, des quelques dizaines de kilomètres, c'est déjà un truc incroyable.
Sur des fibres optiques, ouais, c'est...
Mais dans Charles Strauss, par exemple, on voit dans des œuvres de Strauss, on voit ils utilisent les états intriqués pour communiquer à des distances interstellaires. Bon, on n'en est pas encore là. Oui, c'est probablement difficile à faire même avec la physique quantique. Mais enfin voilà, donc il y a des propriétés. Là, c'est pas tellement le matériau, c'est on exploite des propriétés de la matière dans des états particuliers. Voilà, mais ça reste de la matière qu'on manipule, hein, bien sûr.
Bien, il nous reste surtout à remercier les participants. Raphaël Graniel-Cassagnac, Roland Lehoucq, Fabien Guimot. Et chacun fera ses propres explorations. Merci, au revoir.
Merci, Pascal.